titre de cette édition, sortie frauduleuse de l'or produit en écurie. Au moins 60% de cette production passe par des circuits informels, constat fait par les responsables de la structure d'État chargée de la certification de matières précieuses au cours d'un atelier à Bounia. Controverse autour de l'application de la circulaire du ministre de l'Intérieur mettant fin aux fonctions de commissaire des districts et directeur des provinces. Certaines provinces veulent y aller graduellement, alors que dans d'autres provinces comme l'Équateur, cette circulaire est d'application. Mise en terre demain du corps de l'abbé économe de la paroisse de Mouesseau, assassiné mercredi dans le Massissi. Une messe en sa mémoire sera dite ce vendredi à Goma. Bonjour à tous. Commençons en province orientale. Près de 60% de la production d'or du district de l'Ituri échappe au circuit normal d'achat et d'exportation de matières précieuses. C'est le chef du centre d'expertise, d'évaluation et des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC, qu'il a déclaré hier jeudi à Bounia. C'était dans un atelier sur le suivi de la mise en œuvre de la certification des matières précieuses organisée par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL. Des sous-traitants de la société minière de Kilomoto, Sokimo, sont cités parmi les entreprises incriminées dans cette fraude. Delvin Waïsala.
Plus de 50 personnes et toutes catégories confondues participent à ces travaux de la CIRGEL. Selon les chefs du CESC, l'or produit par de nombreux sous-traitants de la Sokimo échappe au contrôle de son service. Eric Yamba.
La traçabilité normale de l'or au niveau de la concession 40 nous échappe. Ça prend des diverses destinations. Il y a une infime partie qui est achetée au niveau des comptoirs, le reste prend des diverses destinations.
Aimé Kakese, conseiller au ministère des Affaires étrangères, explique la sortie frauduleuse de l'or congolais de l'Ituri par le fait que les acheteurs congolais fonctionnent avec des capitaux venus des pays étrangers sans contrôle.
Toute la production de l'or disparaît. Nous sommes effectivement devenus des commissionnaires. Nous sommes les commissionnaires des pays étrangers. Comment faire pour que nous changions de mentalité? Et d'aller prendre l'argent à l'étranger et venir ici pour aller vendre encore à l'étranger et ne bénéficier que des commissions? Et c'est ça que nous exhortons à tous les opérateurs économiques de l'Ituri.
Des représentants de la Sokimo et d'AGK présents à ces travaux ont refusé de répondre aux allégations portées contre leurs entreprises. Pour eux, ils n'ont pas été mandatés pour cela. Bounia, Delvé, Waïsala, Radio Kapi.
La ville de Mwanda est dans le noir depuis 3 semaines. Conséquence, l'insécurité refait surface. Les opérateurs économiques de ce coin du Bas-Congo, situé à plus de 200 km à l'ouest de Matadi, quant à eux s'inquiètent. La société civile de Mwanda, qui l'a dénoncé ce vendredi sur Radio Kapi, déplore ce qu'elle considère comme une inertie des responsables de la SNEL face à cette situation. La patience, c'est que les responsables locaux de la SNEL demandent à la population.
La situation est devenue insoutenable à cause du manque de courant électrique dans la cité de Mwanda selon plusieurs sources. Boulangerie, chambre froide, moulin, hôtel et radio. Les propriétaires se plaignent tous. Les prix de certains denrées ont pris l'ascenseur. Certains commerçants n'arrivent plus à réunir des moyens pour approvisionner leur groupe électrogène. À cela, il faut ajouter l'insécurité grandissante. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'un cas de vol ou d'attaque d'une maison d'habitation ne soit signalé à Mwanda à cause des poches noires selon la société civile. Les radios et télévisions locales n'émettent plus depuis plus d'un mois à cause du manque du courant électrique, a affirmé un manager d'une radio et télévision communautaire de la place. La société civile locale invite la SNEL à respecter ses engagements vis-à-vis de la population. Sur les 3 groupes thermiques qui alimentent Mwanda, 2 sont en panne du côté de la SNEL. Le chef d'agence de Mwanda a indiqué que l'un des groupes numéro 21 a été réparé par les ingénieurs de l'entreprise pétrolière Perinco. Le dernier est en cours de réparation. Il appelle la population à la patience car la situation, a-t-il dit, sera rétablie dans un bref délai. Matadi, Guirogéniampala, Radio Okapi.
Et pour clôturer ce chapitre économie, en Mbujimayi au Kasaï oriental, le prix du litre d'essence est en hausse depuis 48 heures. Les revendeurs proposent ces produits à plus ou moins 3000 francs congolais le litre, ce qui, du coup, commence à influer sur le prix de transport en commun dans la ville. Jusque-là, les causes à la base de cette augmentation du prix d'essence ne sont pas bien circonscrites. Chris Mokande.
Rareté ou rétention des stocks de produits pétroliers, voilà les causes que la plupart des personnes soupçonnent. De plus ou moins 2000 francs congolais, il y a une semaine, le litre d'essence généralement truqué se propose entre 2800 et 3200 francs congolais chez les vendeurs à la sauvette, communément appelé Kadhafi. Dans la plupart des stations-service, on ne sert pas à la pompe, ce qui laisse le monopole à ses revendeurs. Comme conséquence, le prix de la course en ville par taxi-moto est en passe de monter. Du Kalalawankata à Bakwadianga, une distance d'environ 7 km, les transporteurs commencent à bouder les 500 francs congolais qu'ils ont toujours exigés. Ils en voudraient tout au moins 700. Cette situation, pour bon nombre d'observateurs, a un rapport avec la nouvelle nomenclature de produits pétroliers en République démocratique du Congo. Pour la zone sud, à laquelle appartient le Kasaï oriental, le litre d'essence devrait revenir à plus ou moins 1600 francs congolais. Le ministère et la division provinciale de l'économie ont tenu plusieurs réunions avec les pétroliers indépendants, des rencontres qui se soldent souvent en queue de poisson. Des équipes d'inspecteurs sont déployées dans les entrepôts pour vérifier les prix réellement appliqués, mais c'est une mission compliquée. Ils sont butés à un manque de collaboration des propriétaires de ces dépôts. Mbouji Maï, Chris Mukonde, Radio Kapi.
La suppression de direction des provinces et districts par une circulaire du ministère de l'Intérieur, ne semble pas être bien appréhendée dans les provinces. La province du Katanga dit appliquer par étapes cette circulaire qui ne devrait pas arrêter d'un coup le fonctionnement de ces entités déconcentrées. Entre-temps, d'autres voix s'élèvent pour dire non à l'application de cette circulaire dont son contenu dépendrait de la loi sur le découpage territorial. Une loi qui n'est pas encore promulguée par le chef de l'État, mais la vice-primature en charge de l'intérieur tient à l'application de sa circulaire qui respecte la constitution du pays. Des détails avec Askin Zigbetayo.
Cette circulaire signée par Évariste Bocha, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, s'appuie sur la constitution du 18 février 2006, laquelle constitution avait déjà supprimé le fonctionnement des directions de provinces, de districts, de cités et postes d'encadrement administratif. La circulaire précise que les animateurs de ces entités supprimées doivent intégrer l'inspection générale de la territoriale. Pour les conseillers juridiques en charge de la territoriale, ces entités fonctionnaient jusque-là en violation de la constitution. Pour la province du Katanga, il n'est pas question d'arrêter d'un coup le fonctionnement de ces entités supprimées avec leurs animateurs. Il faudrait appliquer la circulaire par étapes. Le gouverneur du Nord Kivu, de son côté, estime que la suppression de ces entités devrait normalement être suivie de la mise en place des structures correspondantes. En d'autres termes, s'interroge Julien Paloukou, comment sera gérée la cité sans son chef? Pour lui, selon la loi, ces anciennes entités devraient continuer à fonctionner jusqu'à l'installation des nouvelles. En croit certains observateurs, cette circulaire pourrait avoir des incohérences avec le découpage territorial dont la loi n'est pas encore promulguée. Mais les conseillers juridiques en charge de la territoriale, Robert Ndombi, ajoute en outre que même si la loi sur la programmation des provinces n'est pas encore promulguée, cela n'entrave pas l'application de la circulaire.
La dépouille de l'abbé Jean-Paul Kakoulé, assassiné mercredi à Mouissou, est arrivée depuis hier à Goma. Une messe sera dite ce vendredi à la cathédrale de Goma pour rendre hommage à ce prêtre catholique du diocèse de Goma, assassiné par un homme armé dans le territoire de Massissi. La police poursuit les enquêtes. C'est Kombi Katondolo.
Le corps qui est à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu sera exposé cet après-midi vers 16h à la cathédrale de Goma où une messe sera dite en mémoire de l'illustre disparu. D'après le vicaire général du diocèse de Goma, une veillée mortuaire sera organisée ce vendredi par l'église catholique qui invite tous les chrétiens catholiques à venir rendre le dernier hommage à l'abbé Jean-Paul Kakoulé assassiné à Mouissou. Monseigneur Luinza Banita affirme que c'est demain matin que le corps sera mis en terre au cimetière de consacré dédié à Bouhimba dans le faubourg de Goma. L'église catholique, par le biais de son vicaire général, déplore et condamne fermement cet acte de barbarie. Pour rappel, c'est dans la nuit de mercredi vers 21h qu'un homme à main armée s'est introduit dans l'enclos de la paroisse de Mouissou et a tiré à bout portant 5 balles, dont 3 dans la tête et 2 à l'abdomen de l'abbé Jean-Paul Kakoulé. Une personne soupçonnée d'être à connivence avec le commanditaire est arrêtée depuis hier et gardée au cachot de la police de Mouissou. Goma, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
En province orientale, lancement hier jeudi à Dungu du projet dénommé CRSC, entendez, communauté renforcée, sécurisée et connectée. Ce projet est initié par la Caritas diocésaine de Dungu et est appuyé par l'Agence des États-Unis pour le développement, USAID, pour une durée de 2 ans. Selon la directrice de la Caritas Dungu, la révérende sœur Reginald Yagini, l'objectif poursuivi est de doter les communautés locales de matériel de communication pour des alertes précoces en cas de problème. Elle s'exprime au téléphone de Jacques Moukonkole.
Ce projet vise à supporter les communautés de développer et implémenter des plans de sécurité et réduire leur isolation et vulnérabilité à travers des technologies de communication et des renforcements des compétences aussi. C'est un système d'alerte précoce. On va disposer le moyen de communication. Entre autres, la radiophonie, la radio FM et tout ça. Parce que les communautés, ils connaissent beaucoup des problèmes. Il faut qu'on puisse leur fournir des moyens de communication. Les communautés seront quand même organisées dès qu'il y a un problème. Si nous prenons l'exemple attaque de LRA, épidémie, catastrophe naturelle, donc ils vont directement se communiquer avec la base qui est sur place Caritas Dungu et Caritas Dungu fera rapport à la hiérarchie.
Avant de terminer ce journal, notez que Mathieu Ngunjolo, ancien dirigeant du groupe armé de l'Ituri FNI, vient d'être acquitté. La Cour pénale internationale vient de rendre son arrêt sur l'appel interjeté par le procureur de la CPI le 21 décembre 2012 à son encontre. Au cours de l'audience qui vient de s'achever à La Haye, la chambre d'appel a confirmé la décision de la chambre de première instance acquittant l'accusé. Elle a rejeté tous les 3 motifs d'appel développés par le procureur. Ainsi, l'affaire le procureur contre Ngunjolo est définitivement close. C'est depuis le 18 décembre 2012 que l'ancien milicien congolais avait été acquitté des crimes contre l'humanité et crimes de guerre prétendument commis en Ituri le 24 février 2003 lors de l'attaque du village de Bogoro. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Okapi, 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 Okapi.